Voilà, nous nous tournons vers le Seigneur et nous levons nos mains en signe d'humilité, puisque le Seigneur qui se trouve à la droite de Dieu le Père Jésus est le Père qui est en haut. Et nous qui sommes ses enfants, nous tendons les mains vers lui. Et Seigneur, nous te demandons ton aide, ton assistance par le Saint-Esprit. Nous te demandons que tu étendes ta main sur nous et que tu nous gardes. Que tu aies une vigilance particulière sur chacun d'entre nous durant cette journée. Que tu nous renouvelles nos forces, mais tu aussi renouvelles notre intelligence. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole, de comprendre de ce qui va être vécu aujourd'hui. Et je te prie que tu nous donnes aussi la grâce de la communion fraternelle afin qu'il y ait beaucoup de joie au milieu de nous. Et toute l'assemblée dit... Vous pouvez vous asseoir. Ça va la prière là?
Vas-y. Voilà, je deviens un petit peu exigeant sur l'importance de commencer dans la prière, parce que dimanche dernier, j'étais dans un synode régional de l'Église protestante où on débat de sujets un petit peu délicats. Et c'était le dimanche matin et on a démarré à 8h30 par débattre sans même prier. Alors heureusement, c'était écrit dans les règlements. Et donc j'ai pu dire, écoutez, c'est écrit là, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Donc maintenant, je suis un petit peu voilà, dans ce trip-là. Voilà, de ne pas négliger la prière. Deux choses avant de commencer. Je connais bien ce temple, j'y viens de temps en temps. Et je crois qu'il a quelque chose de fort à nous dire. Vous voyez ces roses, voilà, elles sont dans un sens inhabituel. C'est-à-dire que leurs racines sont dans le ciel, parce que là-haut c'est écrit « Dieu est amour ». Et je souligne ça rapidement, parce que si vous voulez comprendre quoi que ce soit à ce qui se joue en Israël, en Palestine, en Terre Sainte, utilisez le nom que vous voulez, eh bien, il faut être dans cette optique-là. Si vous regardez que les choses à partir du point de vue terrestre, vous risquez de dire des choses pertinentes, intéressantes, mais pas forcément utile et pas forcément importante pour conduire tous vers la paix, tout ce qui se joue là-bas. Donc c'est pour ça que je vous propose ce matin de prendre un parcours biblique, parce que pour non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour l'Église chrétienne, la Bible est pas simplement un livre anecdotique qui nous raconte un petit peu ce qui se serait passé, mais vraiment la source aussi avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour comprendre ce que Dieu veut. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose auquel Agnès dira certainement la même chose aussi de son point de vue, mais la Bible ouvre notre regard aussi sur ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous allons vivre aussi demain. Dernière chose avec le titre, Jérusalem unique et universelle, sont deux mots aussi extrêmement importants. Deux mots importants pour le peuple juif d'abord, qui est un peuple unique. Et je vous le redirai tout au long du petit exposé, on ne peut pas plaquer sur Israël ce qu'on plaque peut-être sur d'autres situations et sur d'autres peuples. Il y a, à cause de l'élection du peuple d'Israël, à cause de l'appel fait à Abraham, quelque chose d'unique qu'il faut accepter. Si on n'est pas d'accord avec ça, alors on n'est plus dans la pensée de Dieu, on n'est plus dans la pensée biblique. On est dans une autre pensée. Et je pense que beaucoup aujourd'hui, que ce soit dans l'islamisme radical, dans un certain humanisme tel qu'on peut le voir dans certaines prises de position politiques, sont complètement refusent cette chose. Et puis en même temps, Dieu l'avait dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc il y a aussi une dimension universelle. Et avec Carlos, avec Paris, tout est possible, avec Jérusalem, tout est possible. D'une manière étonnante, vous rejoignez cela aussi. Parce que dans ce groupe que vous formez, vous avez à cœur l'unité. Qu'il y ait... L'Église, ce n'est pas simplement une juxtaposition d'opinions, de traditions, comme on l'a dit, de croyances ou même de théologie, mais c'est vraiment une œuvre que Dieu suscite. Et je crois que nous avons la chance de vivre une époque où nous voyons cette œuvre de Dieu pour vraiment réunifier son corps. Et l'Église, même si elle est unique, comme Israël, elle est aussi universelle. Et c'est ce que vous allez représenter aussi en étant là-bas. Bien sûr, vous représenterez surtout l'universalité francophone, mais il y a aussi cette dimension qui est importante. Donc, retenez bien ces deux mots. À Jérusalem, vous allez retrouver ce que vous vivez déjà ici, l'unique et l'universel. « Voilà une carte qu'on montre souvent. Vous pourrez même la voir tout près de la mairie de Jérusalem. Elle est en couleur là-bas. Il y a plusieurs versions de cette carte, mais qui vous montre au cœur des trois continents qui étaient connus à l'époque, la ville de Jérusalem. Et puis cette phrase qu'on trouve dans la tradition juive, Israël se trouve au centre du monde, Jérusalem au centre d'Israël, le temple au cœur de Jérusalem, et on pourrait même rajouter au cœur du temple, il y a le lieu très saint, et au cœur du lieu très saint, il y a l'arche, mais comme ces réalités n'existent pas pour l'instant, voilà. Cette idée qu'il y a quelque chose de central. Et quand vous allez être à Jérusalem, bien sûr, vous connaissez cette ville parce que vous vous préparez à ce voyage. Je ne sais pas qui n'a jamais été à Jérusalem parmi vous. D'accord. Voilà, vous allez vous retrouver dans une ville qui a quelque chose d'unique. Moi, la première fois où j'y étais, c'était en 91. J'étais comme étudiant, j'ai déjà passé une année là-bas à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je suis arrivé, je ne connaissais pas l'hébreu, donc voir toutes ces écritures, j'étais un peu perdu. Mais quand on passe comme ça du temps dans cette ville, on découvre qu'il y a là quelque chose de très 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 particulier. Une intensité. Il y a même, parfois c'est tellement fort qu'il y a des gens qui ils disent joncte. Et l'hôpital psychiatrique à Jérusalem a même un département spécialisé pour les touristes qui commencent à se prendre pour Jésus ou pour Moïse ou à dire je suis le Messie. Ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Vous pouvez trouver ça aussi dans les guides de voyage. Il y a toujours une petite page là-dessus. Parce que le fait que Dieu ait choisi ce lieu, comme c'est écrit dans cet extrait du livre des rois, mais on pourrait prendre tellement d'autres textes, Dieu l'a choisi pour y établir son trône et y révéler son nom. Et pas seulement pendant le temps où la royauté a duré. Mais le trône de Dieu est aujourd'hui encore établi sur ce lieu et aujourd'hui encore il y révèle son nom. Et donc, soyez pas surpris que vous allez vivre là-bas des choses qui sont fortes, des choses qui vont vous déplacer, des choses qui vont vous surprendre. Parce que c'est ce que Dieu a voulu aussi en choisissant cette ville. Voilà une petite carte du Moyen-Orient. Avec toutes les flèches qui se centrent sur ce pays, sur cette terre, et chacun s'y intéresse pour une raison différente. Certains, alors c'est peut-être plutôt nous, les Occidentaux, parce qu'il y aurait là-bas des injustices tellement graves que c'est notre devoir de nous mobiliser. D'autres vont se mobiliser pour la liberté. Les flèches noires, il y en a un certain nombre, et elles sont de plus en plus fortes aujourd'hui, c'est au nom de Allah. Il y en a pour les frères, voilà, tout le monde a une bonne raison de s'intéresser. Alors quand je dis une bonne raison, c'est entre guillemets, parce que souvent quand on creuse un peu, ces raisons sont tout sauf bonnes. Dans le langage de la Bible, on dirait que ce sont des raisons charnelles. Et je pense qu'il n'y a rien de pire d'aller là-bas avec des raisons charnelles. Il faut y aller vraiment avec beaucoup d'humilité et vraiment conduit par le Saint-Esprit. Je vous ai mis aussi un petit extrait d'un vieux texte des Nations Unies, 1947, au moment où l'État d'Israël n'existait pas encore. C'était toujours la Palestine sous l'autorité anglaise. C'était le protectorat de l'Angleterre. Et donc, on sentait bien que ça pouvait pas durer. Et donc, les Anglais avaient annoncé qu'ils allaient quitter la Palestine. Et donc les Nations Unies se sont réunies et donc ont proposé un plan de partage, voilà, qui donnait certains territoires à un futur État juif, d'autres territoires à un futur État arabe, on ne disait pas encore palestinien à cette époque-là. Et puis pour Jérusalem, et c'est très important de s'en souvenir, on voulait faire de Jérusalem une ville internationale, un corpus separatum. Voilà, ça ne s'est pas passé, mais c'était l'intention. Et je pense que c'est important de se souvenir de cela, que ce qui était au cœur des nations, c'est-à-dire aussi la France et un certain nombre de pays occidentaux, n'était pas vraiment, on pourrait dire, le projet de Dieu, puisqu'on voulait que Jérusalem reste une ville sous le contrôle des nations. Et je vous ai mis ce petit extrait de l'évangile de Luc qui dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens. » Je rappelle ce petit événement historique pour que vous compreniez ensuite tout ce que je vais vous dire sur le parcours biblique. Il y a un projet de Dieu sur cette ville et sur cette terre. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe est la volonté de Dieu, mais l'approche classique des politiques, de nos sociétés, c'est justement de dire « mais non, Dieu n'a rien à voir avec ça, le sionisme c'est politique, et en même temps quand on voit à quoi ça mène, c'est plutôt négatif que positif ». Et je pense qu'il faut se remettre aussi dans cette perspective et dans cette pensée de Dieu. Deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est que vous compreniez bien qu'à travers toute la Bible, il y a une vérité qui s'impose à nous et qui n'est pas compliquée. C'est que l'humanité se coupe en deux. Il y a d'un côté Israël et de l'autre côté toutes les autres nations. Si vous n'acceptez pas cette pensée-là, vous ne pouvez rien comprendre à tout ce que la Bible va essayer de vous dire, tout ce que le Nouveau Testament va aussi essayer de vous dire sur le rapport entre le peuple juif et les autres peuples. Et peut-être que tout ce qui est compliqué aujourd'hui dans cette terre, dans tout ce qu'on entend aussi au niveau politique, c'est que d'une certaine façon, cette pensée-là, si elle n'est pas reçue de Dieu, elle est insupportable. Pourquoi est-ce que j'affirme ça ? Mais déjà au début, dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, avant qu'Abraham ne soit appelé, on nous donne la liste des 70 nations. Il y a d'autres traditions qui disent qu'il y en a 72. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez la photo, c'est les drapeaux qui sont devant les Nations Unies à New York. Voilà, Israël est à côté de l'Italie, c'est par ordre alphabétique, les drapeaux. Voilà, Israël, on peut dire, est un pays comme un autre parmi tous les autres, mais pour la pensée biblique, il est au milieu de toutes ces nations. Vous voyez cette carte, on a essayé de situer un petit peu toute cette liste de peuples qui sont cités dans Genèse 10. Et c'est une tradition très très forte dans le judaïsme, vraiment de dire, voilà, nous sommes un peuple mis à part, parce que Dieu l'a voulu, nous avons répondu à l'élection, on n'est peut-être pas toujours à la hauteur de cet appel, mais enfin voilà, l'histoire est là. Et à côté de ça, il y a tous les autres peuples. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas qui monte sur un bateau, qui va dormir, et il y a des traditions rabbiniques qui disent sur ce bateau un peu spécial, eh bien, les marins, ils étaient des 70 nations de la terre. Et puis Jonas était là tout seul, hein, et il va devoir, quand on va le réveiller, il va devoir dire, mais t'es qui toi? Pourquoi ça arrive, cette tempête un petit peu incroyable? Il dit, je suis hébreu, hein, comme Abraham était hébreu. Et donc Israël est toujours obligé de confesser sa spécificité, son unicité devant les nations. Et puis c'est pas toujours facile, vous connaissez l'histoire, vous savez ce que les nations font à Israël. Et donc des fois on a plutôt envie de dire, non, nous on veut juste être un peuple parmi les autres. Ou alors on se referme tellement sur soi-même qu'on dit, mais nous on va vivre sans tenir compte des autres peuples. Et donc c'est ce défi permanent. Soit Israël se replie sur lui-même, comme Jonas, il se met dans la cale et puis il dit, ils peuvent crever, moi je m'en fous, je dors. Ou alors les nations et l'Église veulent assimiler, et si on ne peut pas assimiler, c'est anéantir Israël. Cette logique-là, vous pouvez l'apprendre à travers l'histoire humaine, vous pouvez l'apprendre à travers l'histoire biblique, vous la voyez toujours. Et quand vous serez en Israël, cette logique-là, aujourd'hui, elle s'exprime d'une manière évidente. On en reparlera peut-être tout à l'heure quand vous poserez des questions, mais c'est de plus en plus fort. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je vais régulièrement en Israël. Et c'est une tendance de plus en plus forte aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais de voir les Juifs en Israël se replier de plus en plus sur eux-mêmes. Ça leur fait ni chaud ni froid que vous alliez faire votre voyage en Terre Sainte. Bon, tout à l'heure, je pense que les gens de l'ambassade vous diront plutôt que ça leur fait plaisir, mais la grande majorité des Israéliens à la limite, ils n'ont plus confiance dans ceux qui ne sont pas juifs. Parce que tout ce qu'ils entendent à longueur d'actualité, c'est qu'on leur tape dessus en disant « Vous êtes le pire peuple de la terre, vous êtes la quintessence du mal. » Et donc, ils n'ont pas forcément envie de vous rencontrer de prime abord. Il faut du temps. Ce que vous n'aurez peut-être pas quand vous faites un voyage aussi court. Nous, voilà, moi, j'y ai passé 10 mois l'an dernier avec ma famille. Mon épouse a aussi une partie de sa famille qui est juive, donc on a pu rencontrer des personnes. Mais la plupart du temps, la tendance forte, c'est aussi de dire mais voilà, les chrétiens, ils ne sont pas avec nous. Et il y a de plus en plus d'incidents qui se passent où on voit des extrémistes juifs qui vont vandaliser des lieux de culte chrétiens. Il y a une agressivité qui s'exprime dans certains médias. Voilà, donc il peut y avoir de la sympathie, mais en même temps, il y a une grande indifférence parce que c'est une tendance forte de la communauté juive à se replier sur elle-même. C'est un peu la même chose qui se passe en France avec les dernières manifestations ou ici dans le quartier, dans d'autres, surtout à Paris, les communautés juives se sentent incomprises et en danger. Voilà. Et donc face à ça, il y a cette attitude aussi des nations et de l'Église, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire, et bien de dire, puisque Israël veut être un peuple à part, ben nous, on ne veut pas ça. Alors soit on veut l'assimiler, c'est ce que la République française a proposé aux Juifs, après la Révolution française, ben devenez des citoyens comme les autres, et beaucoup y ont cru jusqu'à l'affaire Dreyfus, puis ils se sont rendus compte que l'assimilation, ben, ça n'empêchait pas l'antisémitisme. Ou alors c'est la violence meurtrière. Et c'est ce qui est à l'œuvre aussi en Israël et autour. Si vous lisez la charte du Hamas, si vous écoutez les discours des responsables du Hezbollah ou d'un certain nombre de leaders islamistes, je ne dis pas que c'est tous les musulmans, hein, je précise bien, mais c'est quelque chose que l'on entend, c'est pas caché. On veut pas seulement la disparition de l'État d'Israël, mais on veut la mort des Juifs. Ça, c'est le point de départ. Donc vous entrez finalement dans ce voyage que vous faites, vous allez être là-bas, dans cette position extrêmement difficile, à la fois de ne pas appuyer sur cette volonté qu'ont beaucoup de Juifs de vivre entre eux, parce que nous sommes là aussi pour les aider à redécouvrir l'appel universel qu'ils ont, donc il faut qu'ils sortent du ghetto, mais en même temps il faut aussi savoir parfois se taire et pas faire n'importe quoi pour pas donner l'impression qu'on participe aussi à ce mouvement qui a traversé l'histoire et qui traverse aussi maintenant beaucoup de pays d'agressivité et de violence. Voilà, donc ça c'était un peu le contexte. Maintenant je vous propose de revenir sur Jérusalem, puisque c'est la ville où vous allez être principalement, et puis c'est le titre de votre voyage, Jérusalem, tout est possible. Première chose que vous trouverez dans tous les dictionnaires bibliques, dans tous les commentaires, c'est que Jérusalem va mettre du temps à devenir la ville incontournable qu'elle est maintenant pour les croyants. Et dans les 5 premiers livres de la Bible, qui pour les Juifs sont quand même le cœur de la révélation, dans la Torah, le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans ces 5 livres, le nom de Jérusalem n'apparaît pas. Et les rabbins se sont quand même dit, c'est quand même étonnant que la ville qui va représenter le lieu que Dieu choisit par excellence, que le nom de cette ville n'apparaisse pas dans la Torah. Alors bien sûr, ils se sont dit, si ça apparaît pas de manière explicite, c'est que ça apparaît de manière voilée. Et il y a 2 récits importants où, pour les rabbins et pour la tradition juive, Jérusalem apparaît. C'est le premier, c'est l'histoire d'Abraham, où Dieu dit, va vers le pays que je te montrerai. Et Abraham, dans ses aventures, vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse, à un moment donné, il va rencontrer un roi dont le nom va marquer aussi la mémoire croyante, puisqu'on le retrouvera dans l'Épître aux Hébreux, c'est le roi Melchizedek, qui était roi de Salem. Voilà. Il manque Jéru, mais il y a au moins Salem. Voilà. Et donc, pour la tradition juive, Melchizedek, roi de Salem, eh bien, ça veut dire qu'Abraham, il a été sur le lieu qui allait devenir plus tard Jérusalem. Et donc, pour la pensée juive, c'est important, c'est de montrer que déjà, dans les premiers temps de cet appel, puisque c'est avec Abraham que le peuple juif est suscité, déjà, Jérusalem commence à pointer le bout de son nez. Et puis, il y a un deuxième texte qui est extrêmement important, c'est Genèse 22, c'est le sacrifice d'Isaac, ce que la tradition juive appelle l'akeda, la ligature, un texte extrêmement crucial pour la pensée juive et qui va le devenir d'autant plus que le christianisme va voir dans ce texte aussi une annonce de la croix. Eh bien, le mont Moria, où Abraham doit aller sacrifier son fils, c'est ce mont que vous verrez où aujourd'hui se trouve la coupole dorée que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées, que les juifs appellent l'esplanade du temple, et qui est ce lieu où, depuis Salomon, le peuple juif a été vraiment rencontré Dieu d'une manière tout à fait unique. Et donc là aussi, dans la Torah, Jérusalem n'est pas nommée, mais Jérusalem est déjà pointée, et pointée d'une manière décisive comme un lieu où, finalement, ce que Dieu demande à Abraham, c'est presque impossible. Enfin, c'est un texte où jusqu'à aujourd'hui, même les gens les plus incroyants, quand ils lisent ce texte, ils écrivent des choses en se disant, mais il y a un abîme pour la pensée dans ce texte. Il y a un grand philosophe danois qui s'appelle Søren Kierkegaard, il a même écrit tout un livre sur ce chapitre. Parce qu'on voit là, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Un père qui doit donner la vie de son fils. Alors nous, on peut dire, mais oui, c'est une annonce de ce que Jésus va faire. Parce que nous, on est tellement dans cette catéchèse-là depuis qu'on est tout petit que ça va de soi. Mais il faut oublier que ça va de soi. Et donc Jérusalem, déjà avec ces deux exemples, nous pointe vers quelque chose d'important. Hein, que c'est une ville où Dieu va demander à l'homme l'impossible. Et que parce qu'il nous demande l'impossible, eh bien, il n'y a que la foi qui peut saisir l'impossible. Jérusalem, tout est impossible. Il faudrait presque dire en commençant. Mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Alors, voilà, je vous ai mis quelques peintures pour illustrer le propos. Voilà, le deuxième, je saute, on aurait pu parler aussi d'autres textes avec l'Exode où Dieu dit, dans les commandements que Dieu donne à Moïse, il y aura un lieu où vous pourrez aller invoquer mon nom. Donc, voilà, ça apparaît aussi de manière voilée dans la Torah, mais allons directement maintenant à l'histoire avec David. Et donc c'est David qui est celui qui fait de Jérusalem la ville qu'elle est aujourd'hui. Alors je vous ai mis ici, voilà, ça c'est une reconstitution de la ville à l'époque de David. Voilà, ici on est sur le mont des Oliviers, ici c'est là où se trouve aujourd'hui l'esplanade, hein, où il y avait le temple à l'époque de Jésus. Et la muraille, en fait, elle court comme ça. Voilà. Et cette ville-là, aujourd'hui, c'est un quartier arabe. C'est le quartier de Silwan. Et on a fait, là, maintenant, pas mal de fouilles de ce qu'on appelle la cité de David. C'est aussi un lieu extrêmement tendu, parce que de plus en plus de juifs essayent de s'y installer. Donc, ils font des montages immobiliers compliqués, parce que les Palestiniens ne veulent pas vendre des maisons à des juifs dans ce quartier, mais voilà, donc c'est vraiment une des zones aussi de fracture. Mais voilà, à l'époque, cette ville n'est pas une ville qui appartient à une tribu d'Israël. Il y a d'autres villes pas très loin, il y a la ville d'Hébron qui appartient à une des tribus, mais Jérusalem est une ville qui appartient aux Jébusites, un des nombreux peuples qui ont habité cette ville. Là aussi, quand on relit l'histoire de Jérusalem, personne ne peut dire cette ville appartient à nous appartient depuis la nuit des temps. C'est parfois ce qu'on entend, que ce serait la ville des Palestiniens depuis la nuit des temps. Bon, certaines familles y sont depuis des siècles, c'est vrai, mais en même temps, il y a eu là-bas des croisés, il y a eu des Ottomans, il y a eu des Anglais, il y a eu... Voilà. Donc c'est une ville que tout le monde a envie de prendre. Pourquoi ? Ça, c'est une autre question, sans doute parce qu'elle est tellement intense que chacun a envie un petit peu de partager cette intensité. Alors, David choisit cette ville et comme je l'ai écrit, en la choisissant comme capitale, il vexe personne. C'est ce que l'Europe aurait dû faire. mais elle a voulu qu'il y ait un parlement à Bruxelles et à Strasbourg pour que personne soit vexé. Moi qui suis un Belge, enfin je suis devenu français depuis peu, j'ai toujours estimé que Strasbourg était inutile, que ça coûte cher de déplacer. Voilà, mais ça c'est la politique. Et David, il, à la fois on peut, c'est ce qu'on explique dans certains ouvrages érudits, en disant David, voilà, il est un petit peu, il réfléchit à la chose, il se dit, voilà, j'ai pris la place de Saül, c'est pas forcément bien vu par tout le monde, donc il faut que je trouve quelque chose qui fâche pas trop. Et donc on pense qu'une des raisons pour lesquelles il a choisi cette ville, ça peut être ça. Moi, je pense qu'aussi la raison, c'est que Dieu l'a conduit vers ce lieu, parce que Dieu travaille toujours au-delà de notre petite perception. Et donc David choisit cette ville, établit sa capitale, et il y a deux choses importantes. Elle devient le symbole de l'Alliance, puisqu'il va y amener le coffre que Israël, qui avait accompagné Israël depuis le séjour dans le désert. Et placer le coffre à Jérusalem, bon, il voulait construire le temple, mais ce sera son fils qui le fera, c'est vraiment rappeler sur cette ville, on veut signifier maintenant que l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, c'est là qu'elle trouve à s'incarner. Et donc, là aussi, pourquoi Jérusalem reste important, même s'il n'y a plus l'arche de l'alliance, même s'il n'y a plus le temple, eh bien, il y a eu ce choix que Dieu a fait de faire alliance, non seulement avec la ville, mais avec son peuple, et à travers ce peuple aussi, avec toutes les nations. Et puis, deuxième chose qui est importante, c'est que ça devient la ville de David. Jusqu'alors, c'était Jébus, Salem, Jérusalem, mais ça devient aussi la ville de David. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici une image. Voilà, c'est l'arbre de Jessé. Parce que de la descendance de Jessé vient David, mais à travers David et les générations qui suivent, va venir aussi le Messie. Et pour toute la pensée prophétique que nous allons voir maintenant, pour toute la pensée juive jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une ville qui incarne le Messie, c'est Jérusalem. Nous, nous prions en disant « Viens Seigneur Jésus ». On le dit dans la liturgie eucharistique, on le dit dans la prière, on le dit dans notre Père, mais souvent on se dit ben, « Viens, ben oui ». Et on lève les yeux peut-être vers le ciel et on pense que Jésus va revenir à Paris ou à Washington. Alors c'est vrai que si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que c'est quand même plutôt à Jérusalem qu'il va revenir, mais c'est, cette espérance messianique, elle est liée vraiment à ce choix qu'a fait David. Et là aussi, quand vous allez passer ce temps à Jérusalem, vous allez vivre plein de choses, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles, surtout tôt le matin quand il y a l'appel à la prière. Ça dépend où vous logez, mais voilà, ça vous apprend à bénir les musulmans, même quand il est 5 heures du matin et que vous avez envie de dormir. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est que vraiment vous en preniez plein le cœur. Et plus vous allez voir aussi que cette ville est impossible à gérer, que personne n'a de solution humaine à ce conflit, plus vous allez dire « Viens, Seigneur Jésus ». Et comme il ne viendra pas seulement dans le futur, mais qu'il vient quand on l'invoque, eh bien, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a réjoui le cœur quand Carlos m'a dit « Nous, on veut vraiment bénir ceux qui vivent dans cette ville ». Alors il faut vraiment prier pour qu'il vienne, hein, mais je pense que c'est ça, que Jésus vienne mettre sa réconciliation dans ce lieu. Voilà. Alors je saute encore dans les textes prophétiques, alors là c'est Jérusalem est partout, hein, c'est vraiment la ville par excellence. Alors j'ai utilisé un mot de théologien qui s'appelle l'eschatologie. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce mot ? Je vais l'expliquer. Donc, c'est en grec, eschaton, ça veut dire les choses ultimes, les choses dernières. Et l'eschatologie, c'est cette branche de la théologie qui s'intéresse à tout ce qui concerne ces dernières choses, donc l'accomplissement de l'histoire. Alors, il y en a qui partent dans des délires, hein, notamment les témoins de Jéhovah, puisqu'ils se sont intéressés à l'eschatologie, puis ils ont fait toutes sortes de spéculations farfelues. Et souvent dans l'Église, parce qu'il y a eu des farfelues, on a mis ça de côté. On a dit, nous, on est là pour l'ici et maintenant, ce qu'il faut, c'est s'occuper des pauvres, des réfugiés, de tous les malheureux, et ça, vous l'entendrez beaucoup aussi en Terre Sainte, il y a plein de gens qui sont là-bas en se disant, nous, on est là pour que ça change, mais ce que les prophètes nous apprennent, c'est que cette ville, malgré tout, toutes les choses difficiles qu'elle peut vivre, c'est aussi une ville où Dieu a placé quelque chose qui concerne l'accomplissement de l'histoire pour Israël, pour l'Église et pour tous les peuples. Alors il y a un des symboles, c'est la photo que vous voyez à gauche, c'est la porte dorée. C'est une... avec la neige, il y a eu de la neige l'année passée. Voilà. Sans doute. Ah, je pensais que c'était une photo que j'avais prise, mais non, ça ne doit pas être ça. Lo chashuv, comme on dit en Israël, c'est pas important. Voilà. Et donc cette porte, elle est juste en face du Mont des Oliviers, au-dessus c'est l'esplanade où les musulmans vont prier, où les juifs essaient d'aller et ça cause plein de problèmes aussi. Voilà. Et cette porte, c'est la porte selon la tradition, donc la muraille, ce n'est pas celle de David ni d'Hérode, c'est une muraille du XVIe siècle, c'est Soliman le Magnifique qui l'a construite, mais cette porte a été murée parce que les juifs et un certain nombre de chrétiens pensent que c'est par là que Jésus va rentrer. Donc comme voilà, l'islam respecte Jésus comme prophète, mais pas trop comme Messie, et certainement pas comme fils de Dieu, donc il vaut mieux un petit peu lui compliquer la tâche. Voilà. Là aussi, c'est ce que les guides touristiques vous disent, si vous logez à Jérusalem, n'allez jamais loger sur le mont des Oliviers. Il y a un très bel hôtel avec une vue magnifique, mais si cette nuit-là, c'est la nuit où Jésus vient, la montagne se fend en deux et vous risquez de vous retrouver en mauvaise posture. Voilà. Petite boutade. Voilà. Mais qu'est-ce qui... Alors là, j'ai introduit le mot Sion aussi, parce que c'est l'autre nom important de Jérusalem. Hein, c'est une des collines qui se trouve à Jérusalem, vous irez, c'est là qu'il y a la chambre haute, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ce lieu de Sion représente aussi l'espérance. Il y a beaucoup de raisons de désespérer sur ce qui se passe dans cette région. Il suffit d'allumer sa télévision et d'écouter ce qu'on nous dit sur les Israéliens et les Palestiniens, discuter avec des gens de Gaza. Moi, j'ai assisté à une conférence à Jérusalem de chrétiens pro-palestiniens, on a le droit de l'être. Mais je suis ressorti de là, j'étais malade, quoi. Parce que, quelque part, il n'y avait rien à sauver chez les Juifs et chez les Israéliens. C'est le mal absolu, donc si tu es un bon chrétien, alors tu ne vas peut-être pas aller te faire exploser au milieu d'eux, mais en tout cas, tu ne partages plus rien avec eux et tu résistes à ça. Et je pense que, quelque part, malgré toutes les imperfections qu'on peut reprocher à l'État d'Israël et les critiques qu'on peut avoir sur les discours de certains Juifs, comme on peut les avoir sur beaucoup de chrétiens, ils sont porteurs de l'espérance. Une des premières villes qui a été construite par des Juifs qui arrivaient d'Europe de l'Est au XIXe siècle à cause des persécutions, elle s'appelle Petah Tikva. Vous verrez ça en quittant l'aéroport. Ça veut dire porte de l'espérance. Et pour des gens qui ensuite quittaient les camps de concentration, quittaient Auschwitz et qui arrivaient en Palestine, pour eux c'était aussi une vision d'espérance. Et on ne peut pas mettre de côté qu'Israël représente aussi, malgré tout ce qu'on peut critiquer, une vision d'espérance. Et quand vous verrez les arbres qui ont été plantés, un certain nombre de choses, voilà, il n'y a pas que des raisons de désespérer. C'est ce que les prophètes nous rappellent. Et que l'espérance, ce n'est pas seulement qu'un jour il y aura la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, hein, c'est qu'un jour il y aura la réconciliation du lion et de l'agneau. C'est-à-dire que le mal qui est au cœur de toute réalité humaine, la haine qui est là entre les êtres humains, quel que soit le continent, quel que soit le lieu, Dieu va l'anéantir. Et c'est pour ça que Carlos a raison de vous dire, c'est très important l'attitude que vous aurez les uns avec les autres. À Jérusalem, on se prend la tête beaucoup plus vite qu'on ne pense. Parce que si Dieu a mis une onction forte sur cette ville, une onction de sainteté, de gloire, de présence, dans laquelle on peut entrer, il y a aussi un ennemi qui est là et qui lui sort le grand jeu pour semer la haine, la violence et la mort. Et une des raisons pour laquelle cette ville est ingérable, c'est pas simplement que les gens sont de mauvaise volonté, qu'il y a des méchants d'un côté et des pauvres de l'autre, c'est qu'il y a dans ce lieu aussi des puissances spirituelles qui sont à l'œuvre et qui cherchent à empêcher que la parole des prophètes s'accomplisse. Et donc, vous le vivrez au milieu de vous. Mais si vous le vivez, vous n'êtes pas obligé de le subir. Vous pouvez prendre autorité et dire, Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix, viens mettre maintenant ta paix entre nous. Parce que vous rencontrerez des gens aussi qui vont vider leur sac, qui vont parler de leur peur, qui vont parler de tout ce qu'ils n'aiment pas de l'autre. Vous entendrez des Palestiniens vous dire tout le mal qu'ils pensent des Juifs et des Israéliens, et vous entendrez des Israéliens vous dire toute la peur qu'ils ont des Palestiniens. Il faut l'écouter, mais il ne faut pas la laisser prendre racine en vous. Et il faut rester dans cette vision qu'il y a pour les deux une espérance. Alors, je vous ai fait un rapide parcours biblique dans le Premier Testament. Maintenant aussi, pour la piété juive, jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem est une ville importante. Voilà. Après chaque repas, on prie pour la terre d'Israël et pour Jérusalem. Dans le Seder de Pâques, on se souhaite l'an prochain à Jérusalem. Un juif religieux prie 3 fois par jour pour la reconstruction messianique de Jérusalem. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, depuis que les juifs ont été chassés par les romains de cette terre, dans leur prière quotidienne, Jérusalem est évoquée. Et ce n'est pas seulement au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec le sionisme, que tout d'un coup, le judaïsme se serait dit « Ah mais tiens, il faut qu'on retourne sur cette terre ». Parce que c'est souvent ce qu'on entend, en disant « Oui, le sionisme, c'est une création politique, c'est un mouvement nationaliste, c'est une forme de colonialisme européen tel qu'il existait au 19e siècle ». Peut-être, en partie, puisque toute réalité humaine, elle est toujours ambiguë. Mais c'est aussi porté par une vraie piété, une vraie prière. Tous les juifs que vous croisez autour de vous ici, si vous habitez Paris, il faut vous souvenir de ça, que tous les jours, il porte dans sa prière et dans son cœur la ville de Jérusalem. Et que quand il entend ce qu'il entend sur cette ville, sur les juifs qui y vivent, bah ça lui fait mal. Ça ne veut pas dire que ça excuse tout, mais il faut comprendre cet attachement viscéral à Jérusalem. Et si on peut être un peu provocateur, c'est vrai que l'islam n'a commencé à se réintéresser à Jérusalem qu'à partir du moment où les juifs y sont revenus. Parce que si vous connaissez un peu l'islam, très vite Mahomet a dit « Ben non, on prie plus vers Jérusalem, on prie vers la Mecque ». Et puis si vous lisez les récits de voyage du 19e siècle et qu'on vous décrit Jérusalem dans les années 1850 ou même au début du 20e siècle, c'est pas un haut lieu de la spiritualité de l'islam, Jérusalem. C'est une ville presque négligée, abandonnée. Voilà, c'est pas de la propagande ce que je vous dis, vous pouvez trouver ça, il y a même des voyageurs francophones, ces livres-là vous les trouvez sur internet en accès libre, lisez, voyez les gravures, voyez les quelques photos de cette époque, mais voilà, l'amour du peuple juif pour cette ville, à partir du moment où il trouve à s'incarner, c'est ce que vous voyez avec cette photo célèbre, voilà, en 1967, pour la première fois depuis 19 ans, des juifs pouvaient retourner prier au Kotel, voilà, on ne dit pas le mur des lamentations, on appelle ça le Kotel. Ben non, parce qu'avant 48, ils pouvaient y aller. Voilà. Mais entre 48 et 67, la Jordanie a empêché non seulement aux Israéliens, mais à tout juif d'aller prier sur ce lieu. Donc là aussi, il faut comprendre, et pourquoi vous entendrez encore les premiers ministres qui soient de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche dire « Nous gardons Jérusalem unie », ben, c'est à cause de ça. Voilà. Rapidement maintenant dans le Nouveau Testament, parce que si Jérusalem n'intéressait que les Juifs, on pourrait se dire ben, « c'est plus notre problème, nous, maintenant nous avons d'autres villes qui nous parlent, on a Rome si on est catholique, bon, les protestants c'est plus compliqué ». Les anglicans, c'est Canterbury, les orthodoxes, ça peut être Athènes, Constantinople, Moscou. Voilà. Mais Jérusalem est importante aussi pour les disciples de Jésus. Et déjà pour Jésus. Alors là, je vous mets... pardon. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous aurez le temps d'y aller. Au musée d'Israël, vous avez la maquette de Jérusalem à l'époque de... Alors ils disent pas à l'époque de Jésus, mais c'est au début de l'ère commune. Et donc vous voyez ce magnifique bâtiment, ça c'est Hérode le Grand qui a mis... Voilà, Hérode, c'est intéressant aussi, le personnage, si vous voulez vous divertir un jour, vous lisez sa vie. C'était Santa Barbara et Dallas avant l'heure. Hein, enfin, je ne sais pas, je devrais dire plus belle la vie, il faut être à la page, voilà. Mais plus belle la vie, ça reste un peu populaire. Enfin, il faut des choses. Voilà. Hérode, c'est quelqu'un qui a été marié plusieurs fois. Il en a tué plusieurs. Il a tué ses enfants. C'était bon. Il était dans voilà la politique française dont on critique beaucoup aujourd'hui en disant oh voilà, regardez tous pourris. Lisez Hérode et vous trouverez que la politique française est relativement correcte. Hein, voilà. Et donc, il a fait construire ce magnifique temple. Enfin, le temple était déjà construit puisque c'est Esdras et Néhémie qui l'avaient rebâti, mais lui, il a embelli tout autour et c'est lui notamment qui a fait bâtir cette énorme esplanade. Donc, c'est artificiel. Hein, et donc, en dessous, en fait, aujourd'hui encore, il y a des salles, de très grandes salles. C'est des voûtes qui permettent de soutenir cette esplanade. Et c'est là que Jésus est allé prier. C'est là que voilà, il s'est passé un certain nombre de choses que vous voyez. Donc là, à 12 ans, Jésus est dans le temple, à Jérusalem. Une vingtaine d'années plus tard, il y retourne pour y chasser les marchands. Et c'est une des lectures intéressantes de ce texte, c'est pas que Jésus est contre le commerce. Parce que Jésus, il parle souvent d'argent. En même temps, il nous montre que ça peut être une idole extrêmement puissante. Mais ce que Jésus veut faire, c'est que cet espace qui est là, vous voyez, qui est vaste, c'est un parvis, une esplanade pour ceux qui ne sont pas juifs. Comme il y avait relativement peu de non-juifs qui allaient là, on s'était dit, bon, on va pas laisser, il faut rentabiliser l'espace, hein, on a le sens du commerce aussi. Donc on va y mettre le commerce qui était nécessaire, parce que pour offrir des sacrifices, il fallait acheter des animaux qui soient cachers. Donc on ne peut pas arriver, si on est un juif qui vient d'Italie ou d'Égypte, on ne voyage pas avec son animal pour l'offrir en sacrifice, donc on l'achète sur place. Et donc ce commerce était en soi légitime, il fallait aussi changer l'argent pour que ce ne soit pas de l'argent avec les effigies de tel ou tel roi, parce que c'est une forme d'idolâtrie, donc il fallait des pièces qui soient aussi cachères. Alors même l'argent peut être cachère. Mais le problème pour Jésus, et c'est une des lectures qui est à mon avis intéressante, c'est de dire, mais en occupant cet espace pour le commerce, vous montrez que finalement vous accordez pas d'importance à la présence des non-juifs dans cet espace. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, s'il y a un défi pour le peuple juif, c'est de sortir du ghetto. Et souvent c'est dangereux parce que quand ils sortent du ghetto, ils se prennent des coups. Donc c'est plus facile pour eux de dire, mais les non-juifs, ils ont qu'à aller prier où ils veulent, mais nous on est chez nous et on veut vivre entre nous. Et Jésus ne veut pas ça, parce que Jésus sait que l'élection d'Israël implique aussi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et aujourd'hui, voilà, cette réalité, elle est toujours là. Hein. Et heureusement, voilà, le mouvement des Juifs messianiques, ils servent un peu de charnière aussi, justement, pour permettre à ce que une partie du peuple juif soit aussi reliée et en communion avec ceux qui ne sont pas juifs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour Jésus, le temple, c'est important. Parce que là, parfois, on peut penser, oh, vous entendrez ça chez certains Palestiniens, Jésus, il était chrétien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en a à faire du temple? Ça, c'est le légalisme juif. Hein, les sacrifices, de toute façon, il n'y en a plus. Donc, pour Jésus, ça représente, bon, il y a été comme ça parce qu'il n'avait pas le choix. Mais quand on lit bien les évangiles, Jésus est très attaché au temple. Et donc, ce n'est pas pour lui anecdotique, parce que c'est vraiment le lieu aussi où il rencontre son Père. Jésus a aussi une relation forte avec la ville de Jérusalem. Je vous ai mis ici la fresque de Giotto, où voilà, c'est les rameaux. Pourquoi Jésus est monté à Jérusalem? Là aussi, plusieurs fois, quand vous relisez les évangiles, il commence à parler à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que j'aille vers cette ville parce que c'est là qu'il va donner sa vie. » Il aurait pu être crucifié n'importe où. Les Romains, ils ont crucifié plein de Juifs partout en Judée, en Galilée. Pourquoi là-bas? Et quand Jésus arrive aussi et qu'il voit Jérusalem, alors je vous ai mis, ça c'est une belle peinture, Jésus qui pleure sur Jérusalem. Et puis vous voyez ici, c'est une petite chapelle sur le mont des Oliviers, sur les versants du mont des Oliviers, qui s'appelle la chapelle de Dominus Flevit. C'est le Seigneur a pleuré. Vous allez y aller, voilà. Et donc, et vous voyez, comment on récupère. Voilà, on a mis une belle croix. parce que c'est une chapelle, mais quand Jésus a prié, lui, la croix, il ne la portait pas autour du cou, il allait la porter sur son dos. Et puis vous voyez là, voilà, il y a là aujourd'hui, ce n'est pas une mosquée, c'est simplement un lieu, c'est un édifice sur le rocher, j'en dirai quelques mots. Voilà. Mais quelque part, les Juifs sont toujours un peu hors-jeu dans cette vision. Mais Jésus a pleuré sur cette ville. Et je pense que quand on pleure sur quelque chose, c'est qu'on y est profondément attaché. Et donc, je pense que Jésus veut nous dire, et vous, est-ce que vous pleurez pour Jérusalem? Est-ce que vous avez cet amour sacrificiel pour cette ville, ou est-ce que c'est juste, vous allez faire un petit pèlerinage, on va vous trimballer en autocar, on va vous dire, ah ben là c'est ceci, là c'est cela, puis vous serez content, vous reviendrez, hein, vous aurez des belles photos à montrer. Enfin, je caricature, parce que je ne pense pas ce qui va se passer avec vous, mais il y a tellement de groupes, c'est ça, qui vivent. Et ne reçoivent pas cette pensée du Père pour cette ville et pour ses habitants. Et puis, on retrouve le rocher du Moria. Alors, voilà, il est ici. Ça, c'est ce qui se trouve sur le dôme doré. C'est le rocher. On n'est pas certain que c'était le rocher qui était dans le saint des saints du temple. Il y en a qui le pensent, mais enfin, c'est comme on ne peut pas faire de fouilles archéologiques, c'est un peu difficile de savoir. Mais en tout cas, l'islam s'est approprié ce lieu. L'islam s'est approprié aussi l'histoire d'Abraham, parce que pour l'islam, ce n'est pas Isaac, le fils de la promesse, qui a été sacrifié, c'est Ismaël. L'islam a le droit de le penser et de le dire. On a le droit aussi de ne pas être d'accord. Et de s'étonner qu'il y ait ainsi une espèce de théologie du remplacement dans l'islam, comme elle a existé dans le christianisme. Ici, vous avez voilà, le Golgotha. Et ce qui a été construit, alors c'est pas le Golgotha, ça c'est ce qui se trouve dans le Saint-Sépulcre au-dessus de la tombe. Là aussi pour les frères et sœurs évangéliques ou protestants, la visite au Saint-Sépulcre c'est toujours un moment un peu difficile à négocier. Alors les catholiques peut-être aussi, si tu le dis je te crois, voilà, parce que c'est vraiment voilà, une forme de piété à laquelle on n'est pas habitué. Mais ce qui est intéressant c'est que un peu, juste quand vous entrerez sur la droite, il y a le calvaire, le rocher, et puis il faut que le guide vous emmène après tout en bas, parce qu'il y a vous descendez à peu près à 10 mètres sous terre dans une chapelle, et c'est ce qu'on appelle le rocher d'Adam. Mais j'ai une guide, alors tu me corriges, hein, c'est juste jusqu'à présent. Le rocher d'Adam, pourquoi? Parce qu'il y a une vieille tradition qui dit que Adam avait été enterré sous ce rocher, et que quand Jésus a versé son sang, le sang a coulé de la croix sur le rocher jusqu'à Adam pour le racheter des conséquences de la faute. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire-là, elle existe chez les Juifs, mais c'est là que ça se situe. Parce que cette pierre, pour la tradition juive, là, il y a des livres entiers sur cette pierre, c'est une pierre très mystérieuse qui serait là depuis la création du monde. C'est à partir de cet endroit que le monde aurait été créé, mais je crois que j'en parle après. Voilà. Et vous voyez que chacun s'approprie aussi parfois les lieux, les symboles. Et donc vous arrivez là-dedans, c'est un peu comme l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Parce qu'à Jérusalem, tout a été voilà, codifié. Au Saint-Sépulcre, chaque église sait au mètre carré là où elle peut être et là où elle ne peut pas être. Les chrétiens ont tellement confiance les uns envers les autres pour le Saint-Sépulcre que la clé de l'église, c'est une famille musulmane qui l'a. Comme ça, le matin et le soir, on est sûr que ce sera ouvert. Voilà. Donc, vous voyez, ces choses-là, un guide vous les dira peut-être, mais vous ne le verrez pas. Vous verrez en entrant, il y a une échelle qui est sur la façade du Saint-Sépulcre qui n'a plus bougé depuis des décennies, plus d'un siècle, parce qu'à un moment donné, c'est les Turcs qui ont dit « voilà le statu quo pour les lieux saints, c'est comme ça et on n'y touche plus ». Alors parfois le sol appartient à une église, mais les murs appartiennent à une autre. Alors quand on s'avise de nettoyer, on peut nettoyer le sol, mais pas nettoyer le mur. Enfin voilà, tout est compliqué. Parce que c'est tellement symbolique, c'est tellement fort. Et donc là aussi, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Prenez un peu de hauteur et dites voilà, ce qu'il faut, c'est la pensée du Seigneur et pas nos pensées humaines. Voilà, là aussi pour Jésus, je l'ai dit, c'était une ville importante, mais ça l'est aussi pour les premiers chrétiens. et on se rapproche de nous comme ça. Vous avez la Pentecôte dans la chambre haute qui se situe sur le mont Sion, à côté de, voilà, ça c'est un bâtiment qui n'est pas d'époque, hein, c'est pas là que, voilà, c'était pas comme ça quand Jésus y a pris la dernière scène ou quand les apôtres y étaient pour la Pentecôte, c'était un autre bâtiment, mais c'est fort probable que c'était dans ce périmètre-là. À côté, il y a aussi la tombe de David, c'est aussi un lieu traditionnel, on n'en est pas tout à fait certain, et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça a été utilisé par les musulmans. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire, c'est que l'islam aime bien marquer son territoire, voilà. Et donc dès que vous verrez par exemple une église ou une grande synagogue, forcément à côté il y aura un minaret, parce qu'il ne faut pas que, voilà, l'islam donne l'impression que, voilà, ce n'est pas lui qui domine. Voilà. Je le dis, c'est sans agressivité, c'est simplement un constat, ça fait partie aussi d'une certaine attitude presque intuitive de beaucoup de musulmans, de se dire nous on est la dernière révélation, on a supplanté les deux autres qui de toute façon étaient mensongères, donc voilà, qui êtes-vous pour venir nous faire des reproches puisque c'est nous qui sommes dans la vérité. Je veux dire, un certain nombre de chrétiens fonctionnent aussi comme ça, donc c'est juste humain, hein, voilà. Et donc dans le livre des Actes, hein, cette importance aussi, et ce verset que j'aime beaucoup, Jésus le recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et le mot grec, on peut aussi, pour s'éloigner, on peut l'utiliser aussi pour divorcer. Donc ma petite traduction personnelle, c'est pas voilà, c'est pas 100%, voilà, c'est plus logique de dire s'éloigner, mais on pourrait aussi traduire ne divorcez pas de Jérusalem. Pourquoi? Ben, si c'est une logique d'alliance aussi, ça peut avoir son sens. Et Jésus dit, pas simplement parce qu'il va avoir la Pentecôte et après vous ferez ce que vous voulez, vous partirez aux quatre coins du monde, ce que les apôtres vont faire, mais toujours il reste lié à Jérusalem. Ce qui se passe aussi à Jérusalem, c'est acte 15. Pour la première fois, finalement, s'accomplit dans l'histoire la promesse faite à Abraham. Dieu avait dit « En toi seront bénies toutes les nations de la terre ». Ça s'est rarement passé, sauf à quelques petites exceptions. Mais avec acte 15, avec l'annonce de l'évangile à ceux qui ne sont pas juifs, la décision est prise que l'Église sera faite du juif en premier et du non-juif. Et donc, là aussi, deux mosaïques intéressantes qui sont à Rome, comme quoi à Rome aussi, tout n'est pas faux. C'est un protestant qui parle, hein. Ouais. Il y a une mosaïque qui représente l'Église de la circoncision et l'Église des nations. Et là aussi, ce serait l'objet d'une autre conférence, mais toute l'histoire depuis acte 15, ça a été que l'Église des nations a cherché à supplanter l'Église de la circoncision. Est-ce que vous allez rencontrer à Jérusalem, ce que vous pouvez rencontrer aussi dans de nombreux pays aujourd'hui, c'est que Dieu, par son Saint-Esprit, a ressuscité cette église de la circoncision, ce qu'on appelle les juifs messianiques dans leur grande diversité. À Jérusalem, il y a une communauté catholique hébraïque qui célèbre la messe en hébreu. Il y a des messianiques qui seront plutôt de type pentecôtiste, charismatique. Il y en a qui seront de bons évangéliques, où le Saint-Esprit, il faut quand même faire attention. Mais en même temps, ils ont tous cette communion de dire « nous sommes juifs, nous gardons cette identité profondément enracinée en nous, nous la revendiquons et en même temps nous confessons Jésus comme le Messie d'Israël. » Et puis ce texte d'Éphésiens 2, qu'il faut relire constamment, surtout quand on a à cœur l'unité. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a fait tomber le mur de la haine, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les uns, les deux en un seul corps par la croix en tuant par elle l'hostilité. Alors là, il faut, là aussi sur ce texte il faudrait dire beaucoup de choses parce que quand on dit que la loi et les commandements ont été annulés, il y a beaucoup de théologies qui peuvent en découler qui ne sont pas toujours justes, mais ce qui est important, hein, et c'est ce que vous allez vivre aussi, vous êtes vous déjà dans l'unité, peut-être que dans votre groupe il y a quelques personnes aussi qui sont juives, hein, par leur famille, par leur racine familiale, mais vous allez aussi vous reconnecter là-bas avec cette réalité du corps de Christ. Et c'est une des plus grandes difficultés pour les chrétiens palestiniens. Parce qu'à cause du conflit, à cause de la situation politique et de ce qu'ils ont vécu, d'injustice aussi, pour eux, Le juif ne peut pas être un frère, même s'il confesse Jésus-Christ. Et c'est extrêmement difficile, aussi aujourd'hui pour des raisons sécuritaires. À Bethléem, j'ai été assisté à une conférence organisée par un institut biblique évangélique. Ils ont invité quelques messianiques, mais il fallait que ce soit des messianiques qui aient des passeports autres qu'israéliens, parce que sinon un Israélien ne peut pas aller à Bethléem. C'est une ville interdite. Comme beaucoup de gens de Bethléem, s'ils n'ont pas un permis, ils ne peuvent pas venir à Jérusalem. Donc vous allez vous traverser facilement, parce que vous aurez des autocars, vous êtes des touristes, vous passerez de l'un à l'autre, vous verrez ce grand mur, on vous en dira beaucoup de choses, voilà, vous écouterez ce qu'on vous dira. Mais ce qui est important, c'est que voilà, ce mur, ce n'est pas l'ONU qui va le faire tomber. Ce n'est pas les terroristes qui vont y mettre une bombe et le faire exploser. Mais ce mur, c'est Jésus qui seul peut le faire tomber. Alors voilà, on ne peut pas terminer aussi le Nouveau Testament sans retrouver, comme chez les prophètes, la dimension d'eschatologie. Parce que le dernier mot de la Bible, c'est le nom d'une ville. C'est la nouvelle Jérusalem. Alors bon, j'essaie de trouver des images pas trop fantaisistes. Sur Internet, il y a un petit peu des choses parfois bizarres. Mais là, voilà, je vous ai mis cette icône parce qu'elle se trouve à un endroit où j'ai habité 5 mois, qui est l'Institut œcuménique de Tentour. Tentour, c'est une colline juste avant Bethléem. À côté, il y a une localité qui s'appelle Gilo, voilà, qui pour les Israéliens est juste un quartier de Jérusalem, qui pour tous les autres pays est une implantation. Mais enfin, si on ne vous le dit pas, vous ne voyez pas que vous êtes entré dans une implantation, c'est un quartier comme un autre. Et à cet endroit-là, il y a donc un institut œcuménique depuis 40 ans qui a été créé suite au Concile Vatican II pour permettre à des théologiens de venir travailler ensemble et réfléchir aux questions qui touchent à l'unité. Alors moi j'ai été là-bas parce que je fais des recherches théologiques et donc j'ai pu utiliser leur grande bibliothèque. Et dans le jardin de cette belle propriété, il y a cette icône où vous voyez Jésus qui siège au-dessus de la Nouvelle Jérusalem avec les fleuves, le fleuve d'eau de la vie qui sort. Et je pense que c'est ça aussi notre horizon. C'est-à-dire que Jérusalem, ce n'est pas que la ville compliquée, violente, la ville des lignes de fracture. C'est aussi la ville de l'espérance, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Et là, si vous relisez aussi ce chapitre 21 de l'Apocalypse, vous verrez qu'on retrouve des tas de choses de la Genèse, des tas de choses de la tradition prophétique, et que la ville, elle a les fondements des apôtres, on peut dire ça c'est la nouvelle alliance, mais les 12 portes, c'est les noms des tribus, et c'est la première alliance. Comme quoi, Jean veut aussi nous faire montrer que ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Voilà, aussi une petite chose, et puis après je vais terminer, c'est que Jérusalem, on dit que c'est le nombril du monde. Et le nombril du monde, il est là. Voilà, ça, c'est ce qui se trouve dans le Saint-Sépulcre. C'est une espèce de vase, voilà, qui représente le centre du monde. Alors, à l'époque, on ne savait pas que la Terre était ronde, mais symboliquement, c'est fort. Bon, ça rejoint aussi des vieilles traditions. Les Grecs avaient déjà cette idée qu'à Delphes, c'était le nombril du monde. Mais dans la pensée religieuse, parce qu'il faut aussi... Voilà, nous, on essaie d'être dans une vision spirituelle, nourrie de l'Écriture, à l'écoute du Saint-Esprit, mais... Dans le monde entier, les gens fonctionnent aussi avec des schémas religieux. Voilà. Et tout n'est pas forcément à jeter dans le religieux. Et dans les pensées religieuses traditionnelles, depuis la nuit des temps, voilà, il y a toute une imagerie, tout un symbole qui est celui d'une espèce d'axe central. Donc ça peut être un arbre, ça peut être ici à Paris, vous avez ça avec les obélisques, c'est la même démarche. Et cet axe dans cette pensée religieuse relie les niveaux supérieurs, le monde des dieux, le monde divin, avec le monde inférieur qui est le séjour des morts, et puis vous voyez ici le niveau humain qui est le niveau de la terre. On retrouve ça aussi dans le symbole de la croix qui est à la fois cet axe qui fait communier à la croix. Dieu rejoint les hommes dans leur misère, mais Jésus descend aussi jusqu'au séjour des morts, et cet arbre de la croix dans le livre de l'Apocalypse devient aussi l'arbre de la vie. Donc on peut dire quelque part la Bible dit je veux bien parler le langage des religions, je veux bien rentrer dans votre vision, et je crois que c'est important aussi, nous qui sommes dans un pays laïque où quelque part il n'y a plus ni enfer ni ciel, il y a juste la terre avec ses misères, peut-être que ça fait du bien aussi de retrouver une vision un peu plus large, qui est celle de l'humanité depuis la nuit des temps, de se dire il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Et à Jérusalem, c'est ça qui se joue aussi, parce que Jérusalem, c'est cette ville où le céleste, où Dieu rejoint l'humanité d'une manière unique, mais aussi où il y a la puissance des enfers qui est là. Je parlais tout à l'heure de cette pierre qui est là sous le dôme, sur l'esplanade. Pour la tradition juive, c'est une pierre, c'est une espèce de gros bouchon que Dieu a mis. Et quand il l'a enlevé, ça a été le déluge, parce que toutes les eaux infernales sont sorties et ont noyé le monde et semé la mort. Et puis Dieu a remis le bouchon. Et ça veut dire que c'est comme si là, il y a un lieu où Dieu veut vraiment lier la puissance de la mort. Et c'est pour ça que dans toute cette vision de l'Apocalypse aussi, il nous est dit que la mort va être anéantie. Et donc c'est ça que Jérusalem représente, un lieu où finalement, il n'y a pas que les petits conflits politiques entre Palestiniens, Israéliens, avec l'ONU qui s'en mêle, la Ligue arabe, c'est compliqué, on ne sait pas comment s'en sortir, on vote des résolutions, mais il y a un combat spirituel, un combat à mort entre Dieu et celui qui, dès le commencement, a voulu empêcher le projet d'amour de Dieu de s'accomplir. Et donc, vous qui allez aller là-bas, vous allez être aussi au cœur de ce combat. Et il y a un prix à payer quand on veut combattre. Il y aura peut-être des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous étonner. Peut-être qu'à un moment donné, c'est un policier qui ne va pas être sympa avec vous. Qu'est-ce qu'on sait ? Mais souvenez-vous à ce moment-là que derrière les évidences, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les puissances qui sont dans l'invisible. Et s'il y a un lieu sur la terre où ça, c'est vrai, et on n'a pas besoin de l'expliquer, où on s'y confronte presque en y mettant le pied, c'est à Jérusalem. Voilà, encore ça que je voulais dire. Deux mots importants. Le mot « geoula », qui est un mot en hébreu qui veut dire « la rédemption ». La restauration, le salut, la délivrance. Et le mot Nakba, qui est un mot arabe qui veut dire la catastrophe. Quand vous parlerez avec des Palestiniens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, ils vont toujours vous ramener à ça. La Nakba, 1948. La création d'Israël a été pour eux la catastrophe. Elle est pour eux comme la Shoah pour le peuple juif. Et donc, le problème, c'est pas que ça se... C'est pas faux. Le problème, c'est que s'installe alors une culture, un esprit, qui fait qu'il n'y a plus que ça qui est devant les yeux et qui occupe le cœur. C'est comme quelqu'un qui a subi une agression, et puis il n'arrête pas d'y repenser. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné de dire, voilà, ça m'est arrivé, c'était très grave, mais maintenant il faut que je choisisse la vie. Et de l'autre côté, les juifs, qu'ils soient très religieux ou pas religieux, quelque part sont habités aussi, parce que ça fait partie de leur tradition spirituelle, par cette idée que pour ce peuple, Dieu veut un salut et une rédemption. Et tous les juifs sont convaincus, à part peut-être quelques exceptions, vous en trouverez toujours, des juifs d'extrême gauche, extrêmement militants, qui à la limite préféraient être palestiniens qu'israéliens, ça existe, mais c'est comme si, pour décrire la France, vous demandiez à Alain Soral ou à M. Mélenchon, en disant c'est ça la France, bon, on pourrait dire oui, d'accord, mais ce n'est pas que ça. Mais en tout cas, la plupart des Israéliens pensent que ce pays qui s'est reconstitué, que ce soit par des manœuvres politiques des grandes nations, que ce soit par la main de Dieu, tout ce qu'ils voient, c'est que ce pays existe. Et pour eux, c'est ce qui se passe, c'est aussi de l'ordre du salut, de la délivrance et de la rédemption. Et je pense que pour moi, au bout de 10 mois, c'est un petit peu le choix que j'ai dû faire. De dire, c'est quoi le dernier mot que je veux mettre sur ce pays, sur cette réalité humaine ? Est-ce que c'est le mot catastrophe, il n'y a rien à sauver, sauf par la violence ? Ou est-ce que, quelque part, même si je ne le comprends pas, même si je ne sais pas comment ça va venir, Dieu est à l'œuvre pour y manifester quelque chose de bon ? Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire quand vous serez là-bas. Écoutez ceux qui vous parlent de leur souffrance. Soyez attentifs, il ne faut pas fermer son oreille ni son cœur. Mais gardez ce mot de Géoula. Et par votre prière, par vos attitudes, peut-être essayez de faire comprendre à ceux qui ne peuvent pas encore le voir que quelque chose de Dieu, quelque chose de bon est à l'œuvre pour cette ville, pour cette terre et pour ses habitants. Voilà un petit exemple, cet homme s'appelle Tassada, c'est un ancien homme de main de Arafat. Dans sa jeunesse, son objectif de vie c'était d'apprendre le maniement des armes, de traverser la frontière entre le Liban ou la Jordanie vers Israël et de tuer des Israéliens. Et puis il est devenu chrétien, vous pouvez voir son témoignage sur YouTube. Et un jour Dieu l'a vraiment conduit à œuvrer pour la réconciliation entre juifs et arabes. Au début il n'a pas voulu, il a dit « Seigneur, tu peux me demander tout ce que tu veux sauf ça », mais voilà, le Seigneur l'a travaillé. Et il a créé, notamment parmi d'autres choses, une petite crèche. Voilà, je vous en parle parce que notre petit garçon qui avait 2 ans à l'époque, c'est là qu'il a été pendant plusieurs mois. C'est une crèche où le personnel est à la fois juif messianique, arabe chrétien, plus beaucoup d'expatriés. Les enfants, tous les jours, entendent de l'hébreu, de l'arabe, un peu d'anglais. Et il y a vraiment une expérience de réconciliation. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a plein de gens qui œuvrent à la réconciliation là-bas. Ça, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on préfère plutôt montrer ce qui va mal et ce qui fâche. Mais voilà, j'avais à cœur aussi de vous montrer cet exemple, et puis que vous puissiez aussi le porter. Et puis voilà, dire que Jérusalem, c'est compliqué, mais que Jérusalem, tout est possible.